France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'était il y a un an, jour pour jour, Guillaume Bellome était à Aix-en-Provence, à l'auditorium Campra, au conservatoire, où il y entamait l'enregistrement de son nouveau disque, consacré aux œuvres de jeunesse pour clavier de Richard Strauss. Un an plus tard, l'album vient de paraître chez Mirare. Nous l'avons devant nous, le disque, le pianiste aussi. Bonjour Guillaume Bellome.
Bonjour.
Certains musiciens adorent enregistrer, d'autres beaucoup moins. Quel rapport vous entretenez avec le micro devant votre piano ?
Je pense avoir appris à apprivoiser ces micros. Au début, c'est normal, on est un petit peu tétanisé, on joue devant des choses très froides comme ça, ces micros qui captent les moindres petits défauts de notre jeu. Et puis on apprend à s'écouter différemment, je pense, et puis peut-être à être plus indulgent, en tout cas adapter son oreille. Dans les premiers temps, on peut s'attarder sur des tout petits détails, d'une note qui sonne un peu trop par rapport à l'autre, etc. Et puis plus le temps passe, plus on a envie d'avoir des grands souffles, de capter peut-être l'œuvre d'une manière avec un peu plus de recul. Et je pense que pour ça, il faut simplement de l'expérience, il faut enregistrer un certain nombre pour réussir à avoir ce détachement-là et être totalement dans la musique et oublier un petit peu tout le reste.
C'est quoi pour vous une belle prise de son de piano ?
J'ai envie de dire, c'est celle qui va nous donner l'impression d'être dans une salle. En tout cas, c'est très personnel, mais j'aime les prises de son qui nous placent dans la peau d'un spectateur, dans une salle, avec ce qu'il faut de précision, et puis aussi d'espace sonore, comme on le serait dans une vraie salle de concert, finalement. Oui.
Il y a beaucoup de travail ensuite au montage, au mixage. C'est Alice Legros, ici, qui a aussi assuré la prise de son. Comment on travaille avec son binôme preneur, preneuse de son et monteur, monteuse.
Eh ben c'est exactement ça. Et effectivement, Alice qui a été à la fois présente pendant l'enregistrement, donc c'est elle qui va me guider, qui va parfois pointer des choses que je n'aurais pas pu entendre, telle intention. Elle va sentir que peut-être je peux le faire plus ou moins selon. Donc elle se met vraiment à ma place. Et puis dans un second temps, le choix des prises. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément toujours assez, parce qu'on peut faire potentiellement 3 disques avec une même séance d'enregistrement selon les prises qu'on va choisir.
Là, il est là, le disque. Quel sentiment vous étreint quand il arrive physiquement ? Quel sens a d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, un CD qui s'ouvre comme ça avec une pochette ?
Ah, ça devient très concret. Ça devient très concret. C'est déjà un programme qu'on a imaginé, qu'on a travaillé, qu'on a joué. Ensuite, même, ça reste assez abstrait, la séance d'enregistrement. On fait pas mal de prises sur 3 jours et on se demande un petit peu ce que ça va être, toutes ces phases de montage. Et puis quand l'objet arrive, finalement, c'est peut-être le moment de laisser vivre sa propre vie de disque, qu'on espère heureuse et longue. Et en tout cas, oui, ça devient très concret et finalement, ça fait du bien aussi. C'est un processus qui peut être infini. On peut toujours réécouter des prises, on peut toujours aller plus loin. Et ça fait du bien aussi de se dire, voilà, c'était une photographie d'un moment et maintenant je vais le laisser vivre sa vie. Oui.
Et l'écouter. Richard Strauss, ses œuvres pour piano, c'est le nouvel album de Guillaume Bellome, notre invité jusqu'à 9h.
Thank you.
le scherzo, troisième mouvement de cette sonate de Genèse de Richard Strauss, interprétée par Guillaume Bellum, notre invité sur ce nouvel album qui vient de paraître chez Mirare. Jeunesse, même voire adolescent, je crois qu'il a 17 ans, on dirait du Mendelssohn ici.
Totalement, totalement. C'est-à-dire qu'il était baigné par toute cette musique classique, romantique allemande. On l'imagine écoutant du Schumann, du Brahms, du Mendelssohn, de fait, beaucoup de Mozart aussi. Par éducation, son père corniste l'avait baigné dans cette musique-là. Et on sent qu'il l'a non seulement compris, et puis qu'il en fait sien son langage finalement. Déjà, c'est très bien écrit pour le piano. Et puis, c'est à la fois tout son héritage musical et à la fois, ça peut préfigurer peut-être Till l'Espiègle, ce qu'il écrira plus tard. Mais c'est assez fascinant finalement de voir qu'est-ce qu'il a façonné en tant que musicien et puis de voir qu'il l'a écrit si jeune aussi, cette précocité-là. Mozart qu'il admirait, alors effectivement, il partage avec lui cette précocité. Parce qu'avant ça, même à partir de, il me semble, 8-9 ans, il commençait à écrire des petites pièces de genre, des valses, des mazurkas, etc. Et c'est pas forcément un aspect auquel on pense. Quand on a Richard Strauss en tête, on a plutôt l'image d'un monsieur d'un certain âge qui écrit des grands opéras, etc. Et finalement, il écrit depuis tout petit et avec vraiment beaucoup de talent, même dans les procédé de composition, finalement, c'est assez, assez fascinant. Ouais.
Tout le monde a été jeune, y compris les grands compositeurs. Guillaume Bellum, pourquoi ce choix d'œuvre? Comment l'idée vous est-elle venue?
Alors, c'est déjà un répertoire que je connaissais. Il a écrit une sonate pour violon, une sonate pour violoncelle. J'avais baigné vraiment là-dedans, dans tous ces timbres, cette idée de l'orchestre, cette idée aussi des grands leaders qui l'écrira plus tard. Donc, c'est vraiment quelque chose que je connaissais. Et puis, aussi la découverte d'un disque de Glenn Gould qui était admiratif de cette musique-là. Un de ses derniers disques, ouais. Ah, ça, je ne savais pas, pour le coup. Et une espèce de révélation comme ça qui s'est poursuivie au moment de prendre la partition et d'aller sur mon piano. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément. Ça vous tombe sous les doigts ou pas? Et là, il s'est trouvé que j'ai eu l'impression d'être tout de suite connecté à cette musique, de tout de suite comprendre en tout cas un petit peu la sève. Alors il a fallu le travailler, il a fallu évidemment l'affiner par la suite, mais ce rapport-là au déchiffrage, j'y crois beaucoup et je pense que c'est un rapport qui est très sain et on peut pas tricher avec ça. Et donc j'ai ouvert les partitions, j'ai joué et je me suis tout de suite senti bien. Et je fonctionne beaucoup à ça aussi. Et donc après ça s'est poursuivi et je regrette pas du tout.
Et puis, il faut s'affranchir de Glenn Gould, parce qu'il a quand même une façon assez particulière de jouer. Tiens, si on réécoutait juste le tout début du scherzo. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à vous? Qu'est-ce que vous faites par rapport à lui?
On est la tribune de critique. Non. Mais c'est quelqu'un de très extrême. Donc là, effectivement, il joue sans pédale du tout, un tempo très, très, très élevé. C'est génial dans son style. Mais c'est tellement particulier que l'idée, c'est pas du tout de copier ça. C'est vrai que, effectivement, c'est un disque que j'ai écouté.
C'est pas mon idée non plus.
Mais non, c'est ça.
C'est un des rares enregistrements qui existe. Il y a Franck Braley qui a enregistré aussi.
Aussi. Mais c'est vrai que dans le cas de Glenn Gould, je pense que, j'ai pas forcément voulu imiter ça, mais plutôt revenir au texte et revenir aussi, c'est très écrit quoi quand même, il y a des indications de plein de choses et chacun va avoir sa manière de l'interpréter. Lui a cette vision là peut-être assez extrême, mais finalement qui a toute sa place dans sa vision globale de la sonate, parce que là on écoute aussi un tout petit extrait, il suffit que le mouvement d'avant soit un petit peu plus lent, celui d'après un peu plus vite et ça change tout dans l'enchaînement global quoi.
Vous êtes un Straussien, Guillaume Bellum, amateur de ses opéras, de ses poèmes symphoniques?
Alors oui, dans le sens amateur, oui. C'est une musique que j'écoute énormément, que j'admire beaucoup. Et puis que j'ai la chance de pouvoir jouer un maximum. Évidemment, au piano, on joue plutôt ses œuvres de jeunesse, mais on a aussi des cas de leaders, de choses qu'on peut approcher aussi en tant que pianiste. Et c'est un répertoire peut-être que j'ai découvert un petit peu plus tard que les habituels Schumann, Brahms, c'est Beethoven, mais qui me passionne, oui, beaucoup.
Est-ce qu'il y a vraiment, on le touchait déjà du doigt un peu tout à l'heure, mais du Richard Strauss, avant Richard Strauss, dans ses œuvres de jeunesse pour vous?
Oui, alors oui et non, dans le sens où déjà il écrit pour piano, donc ce qui est intéressant c'est qu'il ne cherche pas forcément, enfin il s'adapte beaucoup en tout cas à l'instrument qu'il a en face de lui, et c'est une écriture très dépouillé finalement par instant, très intime aussi, ce qui n'est pas forcément ce qui nous vient à l'idée quand on pense à Strauss. Je pense notamment à ses opus 9, on va avoir des aspects presque listiens par moments de figuration de l'eau, de figuration de certaines choses. Et finalement, alors bien sûr on peut y voir déjà des prémices, notamment de Wiegenlied dans la deuxième pièce de l'opus 9, moi ça m'a tout de suite fait penser à ça, aussi toutes ces thématiques très héroïques, le Don Quichotte qui est déjà présent dans certaines figures un petit peu martiales, etc. Bien sûr, il y a déjà tout ce qui va faire son langage, mais voilà, ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'avoir aussi une autre facette, pas forcément du sous-Strauss qui écrirait d'une manière réduction d'orchestre, c'est pas du tout ça. Il écrit pour piano, et il le fait très bien, il l'a pas forcément beaucoup fait par la suite, mais en tout cas, ça, c'est vraiment des pièces pour piano, et on peut y voir plein d'autres aspects de ce qu'on connaît habituellement.
Vous évoquiez les leaders, il y a des moments on a l'impression qu'il y a une chanteuse ou un chanteur qui va arriver, qui n'arrive jamais, comme si c'était le début d'un lead. Et puis vous parliez aussi de ce Wiegenlied dont on sent presque la préfiguration dans ce deuxième Stimmungsbilder de Richard Strauss.
Thank you.
Richard Strauss, deuxième des Stimmungsbilder, œuvre de jeunesse avec Guillaume Bellum. Le disque vient de paraître chez Mirare. Guillaume Bellum qui est notre invité, qui sera en concert pour présenter ce disque. Ce sera la semaine prochaine, le 27 avril, salle Cortot à Paris. Enregistré, c'est proposé quelque chose de nouveau pour vous, pas forcément la énième version de telle grande œuvre du répertoire. Il y a cette idée-là ou c'est juste parce que vous aviez envie de faire découvrir cette musique?
Le point de départ, c'est ça, c'est quand même l'avoir envie de donner sa voix pour un répertoire. C'est pas l'idée de faire quelque chose de nouveau. Il se trouve que, effectivement, c'est un répertoire qui est très peu enregistré. Et peut-être que ça enlève un certain poids, une certaine pression de pas avoir.
C'est ça que je voulais dire.
40, oui, c'est ça, de pas avoir 40 versions de référence de pianistes qu'on admire. Quand on enregistre des sonates de Beethoven, forcément, on va être peut-être un tout petit peu plus influencé par ce qu'on a entendu. Là, effectivement, il y a eu évidemment des enregistrements de ces pièces-là, mais beaucoup plus rares. Et donc, on part d'une quelque chose de beaucoup plus vierge, de beaucoup plus décomplexé, finalement. Et on a juste envie de faire sa musique, de faire de la belle musique. Et c'est un petit peu ce qui m'a tenu pendant tout l'enregistrement.
C'est votre deuxième album solo, il n'y avait pas eu depuis 7 ans, c'est long 7 ans?
C'est long, effectivement, c'était aussi le temps de trouver un programme qui me corresponde, puis un certain nombre de projets aussi entre les deux qui m'ont tenu, une certaine crise sanitaire qui a pu aussi bouleverser un petit peu les choses, mais effectivement, après l'idée c'est pas d'avoir une production...
Le sortir un disque par an.
Non, c'est pas forcément l'idée. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir un projet qui soit quand même personnel, qui nous ramène à ce qu'on est en tant que musicien, à ce qu'on a envie de faire entendre, quoi.
Là, vous avez quand même une particularité, Guillaume Bellum. Vous êtes pianiste. Vous auriez pu être violoniste. Carrare. Vous avez fait les deux jusqu'au CNSM de Paris, au Conservatoire supérieur. Vous avez du mal à choisir dans la vie.
Alors c'est vrai, je ne sais pas si c'est un lien, mais j'ai beaucoup de mal à choisir, mais au restaurant, donc c'est un petit peu plus compliqué. Pour les instruments, paradoxalement, ça a été assez évident, parce que les choses sont décidées par elles-mêmes. Vous avez plus d'engagement dans un instrument que l'autre, et puis de fait, vous travaillez plus cet instrument, et puis c'est un engrenage. Mais j'ai quand même mon violon tout près de moi.
Que vous jouez régulièrement ?
Que je joue pour moi, alors voilà, je ne joue pas forcément publiquement, en tout cas pour le moment, mais
vous pourriez ?
Ah bah j'en ai suffisamment fait pour
il y a des solistes qui pratiquent deux instruments.
Alors c'est pas pour le moment un manque ou un besoin de vouloir absolument montrer que je sais jouer du violon. Moi ce qui m'importe c'est de jouer de la musique, ou finalement que ce soit du violon, du piano, du chant, enfin du chant je le souhaite à personne, mais mais en tout cas c'est plus le fait de faire de la musique et puis alors évidemment le violon ça a pu m'amener, savoir ce qu'est un archet, ce qu'est un coup d'archet pour un pianiste. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'a apporté beaucoup, savoir faire une ligne musicale, parce que bon, on ne fait quand même qu'appuyer sur des marteaux au piano, on donne l'illusion d'une ligne, mais cette ligne-là, quand on sait ce qu'est un archet, finalement, ça change quand même beaucoup de choses, de faire vibrer cet instrument. Et d'ailleurs, c'est ce qui me frappe dès que je reprends mon violon, c'est ce rapport à la vibration qu'on a moins au piano. C'est un instrument un petit peu plus loin, et le violon, il vibre, il vous fait vibrer, finalement. Même vous faites des cordes à vide, comme ça, et vous sentez ces vibrations dans tout le corps. Et ça, c'est effectivement peut-être quelque chose qui pourrait me manquer au piano, où on ne sent pas ces vibrations-là, oui.
Il y a un violoniste avec lequel vous produisez souvent, dont vous êtes l'un des partenaires privilégiés. D'ailleurs, vous le citez dans le disque, vous dites qu'il vous a conseillé.
Oui, le disque de Glenn Gould, c'est Renaud Capuçon qui m'a conseillé effectivement d'écouter ce disque-là. Et comme je sais qu'il me connaît très bien en tant que musicien aussi humainement, je lui ai évidemment fait totalement confiance et il s'était pas trompé.
C'est qui pour vous ? C'est un grand frère, un mentor ?
C'est un ami, déjà. C'est quelqu'un avec qui on partage la scène, mais aussi tout ce qui va autour de ça. Quand on voyage beaucoup avec quelqu'un, forcément, c'est des vraies tranches de vie qu'on partage. Et puis, c'est quelqu'un à qui je fais une totale confiance. Je sais qu'il sera toujours de conseils pertinents et voilà, toujours très, très au fait de qui on est, de ce qui est... dans quelle direction aller, que ce soit quand on travaille une pièce ou par exemple dans ce cas présent de me conseiller d'écouter ce disque là c'est quelqu'un qui me connaît bien et ça fait du bien de pouvoir se faire confiance comme ça, bien sûr.
C'est pas écrasant parfois d'être en récital avec tous les yeux rivés sur la star du violon et d'être considéré comme le pianiste accompagnateur ?
Alors pas du tout, mais parce que justement il n'est pas du tout dans cette logique de prendre la scène, de prendre la lumière, et au contraire il me laisse un espace d'exister musicalement, d'exister physiquement sur scène, qui pour moi, c'est, quand je parle de confiance, c'est ça en fait, c'est faire confiance à la personne avec qui on joue, et c'est de pas vouloir prendre le devant et d'imposer ses intentions, d'imposer sa présence, c'est de laisser vivre, laisser respirer, c'est un dialogue quand on joue ensemble.
Violon à Paris, disque paru chez Erato en 2021, cette danse hongroise de Brahms dans l'arrangement de Józef Joachim avec vous Guillaume Bellum et Renaud Capuçon. C'était un peu le disque, la suite de ce moment de confinement avec lequel vous aviez partagé beaucoup de pièces avec Renaud Capuçon. C'est curieux, ça paraît loin et proche en même temps.
C'est exactement ça, c'est une période qui nous semble un peu surréaliste maintenant, et c'est vrai que toutes ces pièces-là, on s'était lancé au début du confinement, il m'a demandé si je pouvais lui enregistrer quelques parties de piano, alors évidemment seul, et on se doutait pas de la durée du confinement, et donc on est arrivé à plus d'une cinquantaine de pièces enregistrées comme ça, donc je prenais moi la partie de piano seul, souvent je prenais mon violon aussi pour voir un petit peu si c'était ce qui était possible de faire au niveau des timings, parce que forcément... et je lui envoyais donc ces enregistrements-là qu'il mettait sur ses enceintes et il enregistrait par-dessus. Ça, aujourd'hui, ça paraît, encore une fois, surréaliste, mais sur le moment, c'était une manière de faire de la musique.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Guillaume Bellum est notre invité, il est 8h55, le disque Richard Strauss vient de sortir, concert le 27 avril, salle Cortot à Paris, beaucoup de concerts évidemment, tout au long de l'été, vous passerez par Saint-Denis, Sifour, la vague classique, également le château de la Moutte à Saint-Tropez ou encore à la Roque d'Anteron. C'est l'heure d'ouvrir votre diaporama sonore, d'écouter quelques musiques et de nous dire ce qu'elles vous évoquent. Première musique.
Strauss, ça c'est un des sommets qui m'a beaucoup inspiré, non seulement Janet Baker qui chante sublimement, mais Gerald Moore aussi, qui est un pianiste qu'on connaît beaucoup dans les leaders avec Fischer Dieskau notamment, et sa partie, là je dois dire, notamment toute son introduction, c'est pour moi un des sommets de chant et de du piano qui chante, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup.
Allez, deuxième musique.
Fantaisie de Schubert, un autre sommet de la musique pour quatre mains. Ça, c'est mon tout premier disque que j'ai enregistré avec Ismaël Marguin il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est beaucoup de souvenirs. Et puis, c'est une musique vraiment éternelle aussi.
Troisième musique.
Alors, les années de pèlerinage.
Liste. C'est Nicolas Angelich.
Ah, je me demandais. Ah, bah oui, il m'a fait un pianiste extraordinaire que j'ai eu la chance d'avoir en professeur et qui nous a quittés malheureusement vraiment beaucoup trop tôt et qui a laissé derrière lui vraiment des traces sublimes de piano. Vraiment.
Allez, on va se quitter avec ceci.
Little blue, be my shelter. Be my cradle, be my womb. Be my boat, be my river. Be the stillness of the moon.
Un passionné de musique, alors pas musique classique, Jacob Collier, mais qui est un musicien total, qui a commencé dans sa chambre à enregistrer toutes les voix lui-même. Et qui a sorti récemment un album que je conseille aussi. Alors, c'est pas du Strauss, c'est totalement autre chose, mais c'est très très beau.
Guillaume Bellum est notre invité, était notre invité ce matin sur France Musique. Le disque Richard Strauss vient de paraître chez Mirare Concert le 27 avril. Notre voix mystère, il y a une heure, était...
Eh bien, moi, bon, c'était été le rêve de ma vie de faire un livre où on prenne des dictées. Eh bien, justement, on en a pris. Pour moi, fils d'instituteur et ancien professeur, c'est le comble de la gloire.
C'était la voix de Marcel Pagnol, dont on célèbre aujourd'hui les 50 ans de la disparition.
À réécouter sur francemusique.fr.